Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All the Jazz. On est toujours Fanny
et Anna et on est en direct sur Twitch. Wouh, faites du bruit dans le chat. On est là pour fêter notre 100e épisode. Voilà, avec nos auditeurs et auditrices, en direct live, avec les réactions des gens, sur cette superbe plateforme de streaming que l'on expérimente pour la première fois, donc pardonnez-nous si c'est un petit peu maladroit. C'est une tentative, parce qu'on s'est dit, voilà, on a cherché longtemps en fait avec Fanny, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme événement pour fêter notre 100e épisode, parce que voilà, on voulait faire quelque chose d'un petit peu qui sort de l'ordinaire, donc voilà, on a eu cette idée de Twitch, on va voir si c'est concluant. 100 épisodes, eh oui, 100 épisodes déjà. Et pour ce 100e épisode, on a décidé de partir sur un sujet, on va dire, facile, un sujet que tout le monde connaît, c'est aussi l'intérêt, parce que comme on voulait interagir avec vous, si on choisissait un truc extrêmement niche, ça n'aurait pas trop eu de sens, donc on est parti sur Disney. Parce que c'est un sujet qui nous passionne, on en parle souvent avec Fanny, et que à terme, on voudrait faire une mini-série au sein du podcast All That Jazz sur l'histoire de la firme Disney, ses évolutions au fil des années, etc., sous plein d'angles différents, etc. Donc on s'est dit que ça pouvait être une introduction un peu sympathique à cette série-là que de faire un épisode avec vous sur Disney. Alors aux gens dans le chat, n'hésitez pas, comme on l'a dit, à participer, à livrer vos anecdotes, vos témoignages, vos ressentis. Parce qu'on on va un peu se poser des questions l'une l'autre, et c'est des questions évidemment auxquelles vous pouvez répondre vous sans aucun problème. Alors la première question qu'on s'était mise... C'était remonter un peu à notre enfance, à notre jeunesse, etc. C'est quoi nos premiers souvenirs de Disney ? Fanny, est-ce que tu peux nous dire ?
Oui, alors moi, mon premier souvenir de Disney, enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que je reconstruis ou si c'est vraiment un premier souvenir, mais il me semble que c'est le polochon en plastique que j'ai eu dans le Happy Meal que j'ai consommé, donc j'imagine, pendant l'année 89-90, lors de la sortie de La Petite Sirène. Dans mon souvenir, c'était même une sortie scolaire qu'on avait fait au Galeries Lafayette. Et il nous avait emmené au McDo. Alors, je trouve ça un peu étrange hein, comme projet pédagogique dans les années 90. Mais en tout cas, ça se trouve être mon premier souvenir de Disney. Donc, même pas lié au film, hein, comme on aura l'occasion de le redire sans doute, mais plutôt avant tout au merchandising qui a été fait de façon très, très... oui, là, voilà, ça trahit. Hein. Ça veut dire que j'étais en âge de consommer du Happy Meal et d'aller voir Disney en 89-90. Et d'ailleurs, La Petite Sirène, pour le coup, je suis même pas sûre que ce soit un Disney que j'ai vu à sa sortie, mais plutôt sur le tard. Mais je pense vraiment que ce polochon est étrangement mon premier souvenir Disney. J'ai essayé de le retrouver toute la journée pour l'occasion, pour le montrer dans la collection, mais il est introuvable. On a retourné toute la maison, introuvable ce polochon. Mais voilà. Et après, en termes de films, je dirais peut-être... Enfin, on en parlera tout à l'heure des films d'enfance. Hein. Donc, voilà. Premier souvenir, un polochon en plastique.
Bah alors là, tu vois, moi, j'ai pas de souvenir si précis que ça d'un truc très spécifique. Moi, c'est vraiment les cassettes vidéo, quoi. C'est vraiment le regarder les Disney avec mon frère. Là, j'en ai retrouvé qu'une. Je pense que, en fait, quand on a déménagé d'ici... Ma mère a balancé toutes les cassettes vidéo quasiment, je lui en ai beaucoup voulu. Parce qu'elle disait, maintenant il y a les DVD, donc ça sert à rien les cassettes. C'était pas faux, mais quand même. Mais j'en ai retrouvé une, c'est Merlin l'Enchanteur. Ça fait partie des films que j'ai beaucoup beaucoup vu enfant. Mais on en avait énormément, je pense qu'on avait La Petite Sirène, on avait Aladdin, on avait La Belle et la Bête, c'est sûr. On avait Le Roi Lion, on avait Cendrillon pour les plus anciens, on avait Blanche-Neige. Donc moi c'était vraiment le rituel avec mon frère choisir un film. Alors, on n'avait pas que des Disney mais c'était quand même une bonne partie de Disney. Choisir un film dans notre, je me souviens très bien de notre petite vidéothèque où on sélectionnait des films qu'on a vus énormément de fois. Il y avait aussi Peter Pan, Alice au pays des merveilles. Enfin bon, on va y revenir hein, sur les films précisément qu'on regardait. Mais donc pour moi Disney à la base c'est des cassettes vidéo, c'est ça. Où il y avait dans les cassettes d'ailleurs. Il y avait des petites bandes-annonces, des petites vidéos un peu promotionnelles qui m'ont vachement marqué, dont je me souviendrai, voilà, qui présentaient un peu... Soit c'était des petits making-of des films, soit c'était « Revivez la magie Disney ». Il y avait aussi pas mal de pubs pour les parcs, pour Disneyland Paris. Donc ça m'a marqué, ouais, les cassettes Disney. Ah, Niwig a dit... Ah oui, en VHS, il y avait les suites. Alors oui, carrément, Le Retour de Jafar et Aladdin et le Roi des Voleurs, on les a énormément regardés aussi. Il y a eu une époque de Disney un peu étrange dans les années 90-2000, où il y avait des... ils ont fait des suites, mais qui sont jamais sorties au cinéma, qui étaient des suites directes sous vidéo, et qui étaient quand même d'une qualité très très médiocre. Il y en a quelques-unes à sauver, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez mauvais. Et effectivement, on avait notamment les suites d'Aladdin, les deux suites d'Aladdin, on les a beaucoup regardées également. Je pense qu'on faisait pas du tout la différence à l'époque. Maintenant, je me rends bien compte que Aladdin, c'est un film de cinéma qui est exceptionnellement bien écrit, exceptionnellement bien animé et tout ça. Mais à l'époque, on s'en rendait pas compte. Quand on regarde Le Retour de Jafar ou Aladdin et le Roi des Voleurs, même au niveau de l'animation, c'est d'une qualité très très pauvre par rapport à l'animation du premier. Ça, à l'époque, on s'en rendait absolument pas compte. Enfin, moi, en tout cas, je m'en rendais pas compte.
Moi, j'avoue n'avoir vu, je pense, aucune de ces suites, mais
Tu
apparemment,
les as pas vus, ouais.
on a pas mal d'exégètes, hein, dans le chat de toutes les suites diverses et variées de ces films des années 90.
Alors, je crois que ça doit être Cyril qui est connecté sous le nom de Mewki80. Il dit, faut sauvegarder les VHS, il y a les doublages d'origine. C'est vrai que parce qu'en plus Disney, ils ont modifié certains doublages, notamment le doublage de La Belle et la Bête, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai que c'est aussi les VHS, ça permet de maintenir ça en vie. Alors, on a Gag the Gag qui nous dit Petite Sirène aussi pour moi, je pense l'avoir vu en salle, mais j'étais un peu jeune pour ça. Après, peut-être qu'il repassait, je me rends pas trop compte, mais je pense qu'il repassait de temps en temps en salle, même ceux qui étaient pas tout récents. Les Aristochats en cassette, ouais, moi aussi, j'ai beaucoup plus les Aristochats, ouais. Alors, j'essaie de remonter le chat. Pocahontas 2, un cauchemar. Oui, elle quitte John Smith pour un autre, mais je crois que Pocahontas 2, je crois que c'était effectivement assez mauvais, mais que c'est plus, ça respecte plus la réalité historique de l'histoire de Pocahontas que le premier, si je dis pas de bêtises. C'est louche, elle nous dit, j'ai vu très très peu, ou il, je ne sais pas, comme je ne connais pas vos identités. J'ai vu très très peu de Disney dans mon enfance, moi, à l'exception de toutes les diffusions télé de Mary Poppins. Ah, il passait beaucoup à la télé, Mary Poppins, je me rends pas compte, parce que pour le coup, je regardais aussi en VHS. Ah, c'est bien, on a déjà plein de réactions, là.
Apparemment, La Petite Sirène, c'est logiquement un des tout premiers qu'ils sortent en VHS assez rapidement après la sortie. Et au début, ça ne faisait pas l'unanimité au sein du studio, mais quand ils ont vu le carton que c'était évidemment la VHS, ils ont continué avec la suite.
Ah bah ouais, je pense, ouais. Effectivement, je me rappelle des rayons au supermarché à côté de chez moi avec tous les cassettes. Je pense qu'effectivement, c'était un énorme succès. Puis tous mes camarades de classe, ils avaient tous les Disney. Il y en a qui continuent sur les directs ou vidéo. Le Bossu de Notre-Dame 2 est douloureux à voir. Alors ça, oui, je crois que c'est très mauvais, effectivement. Tim, voir Peter Pan 10 fois dans ma petite enfance, c'est Volcan qui nous dit ça. Mon ami imaginaire, c'était Wendy. Trop mignon. premier Disney, ça avait été Bambi. Ok. Ouais, donc c'est très variable. Hein. Moi, le premier, je me souviens pas, j'avoue. Je sais pas quel est le premier Disney que j'ai vu. Et la renaissance Disney, bah c'est-à-dire que là, je pense qu'on peut dire que tous les gens du chat, on est la génération Renaissance Disney et aussi plus tard, je pense qu'il y a des gens un peu plus jeunes, mais la génération qui a grandi dans les années 90, début 2000, quoi. Donc on a vu tous les la fameuse période de la Renaissance Disney, ce moment où le studio se renouvelle à partir de 89 avec La Petite Sirène et se met à produire à nouveau des films adaptés de contes de fées, des films musicaux aussi, hein, ce qu'ils avaient légèrement laissé tomber dans les décennies précédentes. Et donc ouais, c'est avec ça qu'on a grandi. Ah, je me souviens de l'improbable Bernard et Bianca au pays des kangourous. Ah oui, je les ai vus ça. Ouais, moi aussi j'ai vu les deux, Bernard et Bianca, plusieurs fois. Effectivement. Qui était un peu moins musicaux, même s'il y avait peut-être deux, trois chansons dedans. On peut
Qui a été
dériver
produit
vers
en
la question
parallèle de
suivante.
La Petite Sirène.
Oui, en parallèle de La Petite Sirène. Oui, produit en même temps, ouais, c'est ça.
Oui, donc on a un petit peu empiété sur le point suivant qui était précisément le film que l'on préférait lorsqu'on était enfant.
Ouais, alors du
Anna,
coup.
c'est lesquels tes Disney vraiment de l'enfance?
Ben, j'avoue que j'ai pas réussi à identifier vraiment un préféré, comme je disais tout à l'heure, j'en avais plein. Je pense j'aimais beaucoup Aladdin, j'aimais énormément la musique, La Belle et la Bête aussi. Et je me rends compte qu'en fait je dis qu'on est la génération Renaissance Disney, etc. Mais à l'époque je faisais évidemment pas du tout la distinction entre les films qui étaient produits à telle ou telle époque de la firme Disney, à telle ou telle décennie. Évidemment j'en avais pas la moindre idée. Donc je faisais pas de distinction et du coup j'aimais autant donc la Renaissance, j'aimais aussi les films de l'âge d'or comme Cendrillon, Blanche-Neige, peut-être j'aimais un peu moins mais quand même que j'ai beaucoup beaucoup vu. Mais j'aimais aussi les films de l'espèce de période un peu intermédiaire qui est censée pas être géniale mais en fait où il y a énormément de films ouf quoi. Les films type Merlin l'Enchanteur, les Aristochats, films fin années 60, début années 70. Et Robin des Bois par exemple, j'ai Robin des Bois, mais j'aimais tellement, c'était peut-être ça mon préféré petite. Qui en fait sont des films hyper chouettes, qui un peu moins, on va dire, denses, un peu moins peut-être recherchés au niveau artistique, au niveau de l'image, etc. mais qui était hyper fun, quoi. Enfin, Robin des Bois, pour moi, c'est l'image d'un film super marrant, avec des personnages au design rigolo, des chansons entraînantes. Donc, c'est vrai que je faisais pas trop la différence entre toutes ces périodes-là de l'histoire de Disney, qui, bah, évidemment, maintenant, si on regarde avec le recul, etc., on voit bien que c'est pas les mêmes esthétiques, c'est pas les mêmes choix d'histoire, de thématiques. Mais pour moi, c'était un peu un univers, quand même, qui restait un univers commun. Volcan, elle dit Bernard et Bianca, mon entrée dans le monde des dessins animés d'enquête. Ouais, c'est vrai, il y avait Bernard et Bianca, il y avait aussi Basile, détective privé, quelques années avant, je crois, qui était aussi un truc d'enquête adapté de Sherlock Holmes. Yuki 80, le mystérieux, nous dit, enfant, j'adorais Bambi, le livre de la... Oui, le livre de la jungle aussi, ouais. Alice au pays des merveilles et Robin des Bois. Et puis arriva Le Roi Lion, et ce fut le film culte de ma fratrie. Ouais, Le Roi Lion, ça fait partie quand même des marquants. Et Volcan, elle rajoute, le top de mon enfance, hormis Mister Prince, c'était clairement Robin des Bois aussi. Ah, il y a des fans de Robin des Bois, je suis contente. Et Gag the Gag qui dit, pas facile, Aladdin, Roi Lion, pour ce que j'ai vu en salle. Ouais, moi, pour le coup, j'habitais à la campagne, j'allais pas trop au cinéma quand j'étais vraiment petite, donc des Disney, je crois que j'en ai vu peut-être un en salle, mais je suis même pas sûre. Et ensuite, c'est Blanche-Neige, Pinocchio pour les anciens. Ouais, c'est vrai, Pinocchio, ouais. Blanche-Neige dans les bois, Pinocchio qui se change en âne, à la base de mon attrait pour le cinéma d'horreur sans doute. Oui, c'est vrai qu'il y a des visions assez étonnantes et parfois qui vont jusqu'à l'horrifique dans certains Disney. C'est vrai que Blanche-Neige dans la forêt, ça fait partie des trucs un peu terrifiants de mon enfance personnellement.
Ah oui, ils sont absolument terrifiants. Le Blanche-Neige, il y a plein de plans hyper angoissants.
Et toi, Fanny, alors, est-ce que t'as un préféré ou est-ce que t'es un peu comme moi, t'avais plein que tu regardais alternativement?
Moi, de mon côté, j'avoue, bah, apparemment, mais ça, je m'en souviens pas bien, mais c'est ma mère qui me dit que je regardais beaucoup Pinocchio, mais vraiment en boucle, ouais. Alors que c'est quand même une histoire assez traumatisante, ce côté aussi culpabilisateur, voilà, peut-être à l'origine de mon surmoi extrêmement développé, hein, ce visionnage de Pinocchio. Mais ceux que je me rappelle vraiment avoir beaucoup regardé, c'est ceux que j'ai vus plus vieilles, hein, Aladdin, Le Roi Lion, c'est vraiment des films qui m'ont marqué aussi en tant que comédie musicale, c'est-à-dire que je rechantais les chansons, enfin, c'est des films que je connais extrêmement bien, aussi grâce à tous les produits dérivés qu'ils ont suscités à l'époque. Mais d'enfance, ouais, apparemment Pinocchio, je me rappelle aussi pas mal d'Alice, un peu de Peter Pan, mais j'ai surtout été marquée, je pense, par la Disney Renaissance.
C'était notre jeunesse.
Mais oui, et on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais il se trouve qu'on est né pour être en phase à la meilleure des périodes Disney. Quelle chance, en toute objectivité.
C'est ça. C'est pas du tout lié au fait que c'était notre jeunesse à nous. Hein. C'est vraiment que c'était... Non, c'est bon. Après, c'est vrai que la Renaissance Disney est une période absolument incroyable de créativité et de renouveau, quoi. Donc, c'est indéniable. Et du coup, je m'étais dit qu'on pouvait aussi parler de est-ce que notre point de vue est différent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des films qu'on a redécouverts plus tard, qu'on aime plus qu'on aimait enfant, ou qu'on a découvert finalement, qu'on connaissait pas quand on était enfant? Est-ce que toi, Fanny, t'as des...
Je vois que dans le chat, il y en a plusieurs qui réagissent sur Fantasia. C'est vrai que moi, par exemple, enfance, c'était un film que je trouvais assez peu attrayant, même si c'est très beau, comme il n'y avait pas de narration, voilà, j'avoue que ça me passait un peu au-dessus. Je trouvais surtout qu'il était interminable. Mais c'est par exemple un film que j'aimerais bien redécouvrir aujourd'hui. En fait, j'ai pas pris le temps de le regarder, mais je pense qu'aujourd'hui, je serais plus en capacité de l'apprécier. Et il y en a que j'ai revu récemment parce que voilà, mon fils qui a 3 ans et demi se met doucement au Disney sous mon impulsion. Et donc j'ai re-regardé Alice, dont je me souvenais pas si bien et que je trouve absolument incroyable. Enfin vraiment, visuellement, toute la fin me fait penser à Bubsy Berkeley. Enfin, voilà, les plans sur les cartes, c'est incroyable. Enfin c'est superbement beau, hein, tous les dessins de Marie Blair. Donc voilà, je pense que cette période-là, que je connais moins que la Disney Renaissance, vraiment les classiques Disney des années 40 et 50, j'ai hâte de les redécouvrir, on va dire, à l'âge adulte. Et après, il y en a que j'aime toujours autant, comme Mary Poppins, voilà, qu'on a programmé au dernier Old Tadja Cinema Club, qui était aussi un film d'enfance, hein, j'ai oublié de le dire, et que je trouve toujours aussi superbe aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que pour le coup, c'était vraiment chouette de revoir Mary Poppins, qui est effectivement un film assez exceptionnel. Hein. Venez au Cinema Club de Old Tadja, on ne passe que des films exceptionnels. Moi, je dirais que je garde une affection pour à peu près tous ces films-là, finalement. Je suis sûr que si je les revoyais... Il y a des films de mon enfance que j'adorais, que j'ai revus plus tard, et je me suis dit, ouais, non, c'était quand même pas très bon. Je pense que les Disney, ça reste quand même des films pour enfants de grande qualité. Donc j'ai pas eu de truc où je me suis dit ah ouais finalement c'était pas fou. Je garde vraiment voilà une appréciation voilà pour je sais pas Aladdin par exemple. Je trouve que c'est vraiment un film très très bien. Et mais il y a des films que j'ai pas tant vu que ça jeune et que après quand j'ai commencé à être très cinéphile à l'adolescence, je les ai vus ou même un peu plus tard. Je pense par exemple à La Belle au bois dormant, qui est un film que bon j'ai vu quand j'étais petite mais que je connaissais pas particulièrement. Et quand je l'ai revu, je me suis aperçu que visuellement c'est un film absolument sublime, notamment les recherches sur les décors qui sont, enfin c'est des peintures quoi. Il y a vraiment quelque chose auquel on est sans doute un peu plus sensible si on y revient avec un regard qui se rend compte du travail qu'il peut y avoir derrière, etc. Voilà, c'était un des exemples que j'avais. Et ben voilà, Miyuki 80 nous dit La Belle au bois dormant, les décors sont à tomber par terre, l'artiste derrière était fou. Ouais, c'est vraiment un peu intéressant. Alors, Newick de jour. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du côté VO-VF, le jour où j'ai découvert Mary Poppins en VO et donc Julie Andrews, smiley, cerveau qui explose, un truc comme ça. c'est vrai que moi j'ai tout vu évidemment tout en VF, mais je les ai tous revus après en VO ou en tout cas écouté les chansons en VO. J'ai énormément écouté, on va dire à l'adolescence et plus tard avec les plateformes de streaming musical, énormément écouté les chansons en anglais. Donc finalement maintenant je connais aussi bien les chansons en version anglaise qu'en version française. Alors, Miss Volcan qui nous dit « Je suis obsessionnelle de Peter Pan, mais en le redécouvrant récemment, notamment en comédie musicale sur scène, mais pas produite par Disney. » Ah oui, parce que c'est évidemment, c'est à l'origine, ça n'a rien à voir avec Disney, c'est juste un bouquin. « J'ai perçu toute la tristesse et la mélancolie qu'il y a en deuxième lecture dans cette histoire. Ça fait tout bizarre de redécouvrir avec son regard d'adulte. J'aime toujours autant, mais j'ai vraiment une double lecture maintenant. J'ai revu Mary Poppins récemment et pareil, toujours aussi fan, on est d'accord. Revoyez-le, hein, c'est franchement un super film. » Et Miyuki 80, j'ai encore du mal à basculer en VO pour les anciens. Toi, Fanny, tu t'es sur la VF encore ou t'as réussi à switcher ou tu veux switcher ou pas ou...
Non, moi je switch sur la VO maintenant, sur tous. Alors peut-être éventuellement si je re-regardais Aladdin, je ferais juste un coup de VF pour me souvenir, mais je pense que maintenant je suis vraiment habituée à la VO. Agathe 87 me dit « J'étais tellement fascinée par Mary Poppins quand j'étais petite, je bavais devant la télévision en VHS ».
Bah oui, en plus, ouais, Mary Poppins, il y avait un côté d'émerveillement. On en a parlé dans l'épisode qu'on avait consacré au film. C'est vraiment la magie, quoi. Puis en plus, on s'identifie aux deux personnages des enfants qui découvrent cette nounou magique. Donc, je comprends le sentiment.
Alors, bah, on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais on voulait établir notre période préférée des films Disney. Bon, je pense que pour toutes les deux, on a déjà un petit peu répondu.
Oui, non, mais c'est sûr qu'on va, évidemment rester sur la Renaissance. Pour la nostalgie, pour les souvenirs d'enfance, etc., bien sûr. Mais aussi, en tant que fan de comédie musicale, toutes les deux, comme vous vous en doutez, vu que c'est notre sujet depuis 100 épisodes, à cause de la forte influence du storytelling à la Broadway sur ces histoires-là. Puisque, voilà, pour résumer un peu, mais on reviendra bien sûr dans notre fameuse série sur Disney qu'on fera un jour, sur ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en gros, il y a eu un espèce de retour, en volonté de retour à la fois donc les contes de fées et à la fois la tradition de faire des films musicaux, qui a toujours été présente chez Disney, bien évidemment. Mais là, ils sont carrément allés chercher des auteurs de Broadway, donc en les personnes de Alan Menken, le compositeur, et de Howard Ashman, le parolier, et donc qui ont écrit La Petite Sirène, Aladdin et La Belle et la Bête, qui étaient les auteurs de la comédie musicale La Petite Boutique des Horreurs, Little Shop of Horrors, qui avait été un succès off-Broadway, etc. Ils sont quand même allés chercher deux gars jeunes off-Broadway pour leur faire écrire des films comme on écrit un show de Broadway. Donc avec des chansons qui font avancer l'action, des I Want Song, donc la I Want Song, c'est la fameuse chanson que le héros chante au début du film pour ou l'héroïne pour dire quel est son désir dans la vie, donc c'est partir là-bas pour la petite sirène par exemple. Et voilà, ils ont amené toute cette technique-là de Broadway qu'on retrouve, enfin voilà, qui permet nous deux évidemment de faire le lien avec notre passion pour la manière dont les comédies musicales sont écrites en fait. Alors Howard Ashman est décédé du sida, je sais plus l'année exacte, mais voilà, quelques années après.
À la toute fin de La Belle et la Bête, je crois.
C'est ça, voilà. Et du coup, Alan Menken, lui, par contre, a poursuivi sur plein d'autres films par la suite. Il a fait aussi la musique d'Hercule. Pour le coup, il y a une magnifique aussi, I Want Song, dans Hercule. C'est un peu plus tard, mais c'est quand même toujours cette même grande période-là. Hercule, on l'a pas mentionné, mais je l'ai beaucoup vu aussi quand j'étais petite. Bon, il y a aussi, il y a pas que Alan Menken, parce qu'il y a aussi Le Roi Lion avec la musique de Elton John. Mais voilà, il y a toujours cette volonté-là de faire vraiment des films écrits comme des comédies musicales avec les techniques de la comédie musicale.
Et ce qu'on mesure pas forcément, c'est que Ashman, qui est appelé par Disney, parce que c'est vraiment d'abord Ashman qui est approché apparemment par Jeffrey Katzenberg sous la recommandation de comment il s'appelle, de David Geffen. En fait, David Geffen avait bossé avec Ashman et Menken sur La Petite Boutique des Horreurs, et il a dit à Katzenberg, qui était donc le PDG de la division film de Disney à l'époque, qu'il avait intérêt à rencontrer ces deux gars. Et donc quand il aborde Ashman, Ashman, lui, il dit qu'il veut spécifiquement travailler sur de l'animation au sein des studios Disney parce qu'il pense que l'animation, c'est le meilleur médium pour faire de la comédie musicale. Donc je trouve ça vraiment intéressant qu'il se soit d'abord positionné sur cette branche animation qui, au début des années 80, au milieu des années 80, est totalement moribonde chez Disney. Et c'est vraiment la comédie musicale en tant que genre qui relance l'animation Disney. Aujourd'hui, évidemment, qu'on pense à Disney peut-être avant tout pour de l'animation, mais l'animation a vraiment failli disparaître dans les studios dans les années 80. Je vois que Piaf, dans le chat, nous demande s'il y a des périodes bien définies dans l'histoire de Disney, puisqu'on raisonne effectivement en termes de périodes. Alors, oui, on va dire, dans l'historiographie de Disney, il y a des périodes un petit peu classiquement délimitées. Il y a le tout premier âge d'or, c'est Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, enfin les films de fin des années 30, début des années 40. Si je ne dis pas de bêtises, ensuite, on a l'âge d'argent dans les années 50. Années 50-60, âge d'argent, donc Merlin, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois Dormant. Et après une crise des années 70 et 80, on a cette fameuse second âge d'or ou Disney Renaissance qui va à peu près de 89 à, en général, 95. On va dire les plus rigides terminent ça à Pocahontas, mais certains englobent quelques-uns des films postérieurs comme Le Bossu de Notre-Dame et Hercule, justement, dont tu parlais. Voilà un petit peu pour les périodes.
Alors, pardon, j'ai l'impression que j'étais un poil décalé. Donc, je te laissais finir de parler, parce que si je parlais en même temps que toi, je pense que ça allait tout se mélanger. Mais très bon récap sur les périodes, mais on reviendra sur ça évidemment dans notre série Disney. Je pense que l'idée c'est de le faire de manière chronologique, donc on verra comment ça se déroule au fil des années. Alors la question suivante, c'était sortons un petit peu des films, les comédies musicales scéniques. Est-ce que il y a des comédies musicales Disney que tu as vues sur scène, puisque comme vous le savez sans doute, Disney a toute une branche Disney Theatricals, donc les comédies musicales. Et donc, il y a plein de comédies musicales qui sont adaptées des films Disney sur scène. Lesquelles as-tu vues, Fanny ?
Alors, tout à fait, hein, c'est rigolo, assez... ce mouvement voilà, où il y a Disney qui va puiser auprès de la scène des talents et des formes narratives pour créer des films d'animation en comédie musicale. Et ces films d'animation en comédie musicale, ensuite, deviennent naturellement des comédies musicales scéniques. Alors moi j'en ai vu plusieurs et un petit peu partout en vrai. J'ai vu d'abord Le Roi Lion à Paris, j'ai repris mon petit Excel des comédies musicales vues. Et donc je peux vous confirmer que j'ai vu Le Roi Lion à Paris en 2008, Mary Poppins à New York en 2009, La Belle et la Bête aussi à Paris en 2013, Aladdin à Los Angeles en 2018, donc dans une version tournée, et Frozen à Londres en 2023. Et j'ai aussi noté Sister Act, vu à Paris en 2012, parce qu'il me semble que c'est produit par Disney Theatrical. Je ne me souviens plus si c'est un film Disney, Sister Act, mais en tout cas, apparemment, c'est produit par Disney Theatrical.
Et alors, lesquels as-tu aimé particulièrement dans ces comédies musicales-là ?
Je pense avoir été quand même très impressionnée par Le Roi Lion.
Mmh.
Parce que Le Roi Lion est très impressionnant et parce que, je pense que c'est quand même une des plus belles, scéniquement parlant, hein. C'est une des qui se joue depuis le plus longtemps, donc c'est évidemment pas un hasard. Mais toutes, je les ai beaucoup aimées, enfin, Mary Poppins, c'était aussi superbe. des décors ultra impressionnants, des effets techniques incroyables avec un Berthe qui marche au plafond. Dans Aladdin, on a un tapis volant, donc on a masse d'effets hein, sur chacun de ces trucs. Hein. Frozen, évidemment, on a le château qui se construit et Elsa qui change de robe et tout ça. C'est aussi la problématique de ces comédies musicales que de recréer sur scène des trucs qui sont faciles à dessiner, puisque dans l'animation, on va dire, il n'y a pas de limite, mais après, il faut le faire avec des acteurs de chair et de sang. Non, je ne saurais même pas te dire laquelle j'ai préférée, parce que tout était incroyable. Peut-être juste un bémol sur La Belle et la Bête et Aladdin, qui étaient sans doute toutes les deux des versions tournées, donc moins... Enfin, ça se sentait qu'au niveau de décor, tu vois, c'était moins fou que toutes les autres. Mais ouais, c'est à chaque fois du grand spectacle. On va dire, quand on va voir une comédie musicale Disney sur scène, on sait qu'on va s'en prendre plein la vue, quoi. Et toi, Anna, tu as vu lesquelles ?
Alors moi, finalement, j'ai essayé de lister, j'en ai beaucoup moins que toi, puisque en fait, j'ai vu simplement celles que j'ai pu voir à Mogador, donc au Théâtre Mogador à Paris, à savoir La Belle et la Bête et Le Roi Lion. La Belle et la Bête, j'avais bien aimé, sans être non plus complètement waouh. Par exemple, j'ai pas de souvenir de trucs vraiment très impressionnants, ce dont tu parles visuellement, etc. Mais c'est peut-être parce que mon souvenir est assez lointain. Par contre, Le Roi Lion, ça m'a tué. Enfin, là, on a notre ami Coque Sigru qui dit dans le chat le début du Roi Lion où les acteurs surgissent dans la salle. Point d'exclamation. ouais, c'est incroyable. Moi, c'est un des plus beaux souvenirs, je pense, de théâtre de toute mon existence, en fait. En plus, j'avais eu pour mon anniversaire, on m'avait donné un bon d'achat pour acheter des places de théâtre, genre de 100 €, je pense, ou de 120, enfin, c'est des amis qui s'étaient cotisés. Et j'avais utilisé, au lieu de prendre, genre, par exemple, deux spectacles, j'avais tout mis, les 100 ou 120 € sur une place, genre, tout devant pour Le Roi Lion. Et meilleur choix de mon existence, je pense. Parce que c'était, j'étais vraiment tout devant. Et quand les animaux arrivent sur les côtés, j'étais sur un côté, parce que j'aime bien me mettre sur le côté au théâtre. Du coup, c'était trop bien, parce que quand les animaux, là, tous les gens déguisés, ben, en plus les costumes sont sublimes, enfin les masques, les... Voilà, bref. Et donc les comédiens qui arrivaient dans leurs costumes d'animaux sur le côté, entre les rangées, pour ensuite monter sur la scène... C'était un des trucs les plus beaux que j'ai vus, ça m'a ému aux larmes, je me souviens. Voilà, à la fois, ça me touchait parce que ça me rappelait mon enfance, etc. La chanson, donc la célèbre chanson, bien sûr, l'histoire de la vie. Voilà, ça m'avait vraiment impressionné. Puis tout, en fait, tout dans Le Roi Lion est visuellement stupéfiant, en fait. Les effets de trucage, etc., pour rendre le côté épique de l'histoire. Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné, qui restera une des plus belles expériences de comédie musicale scénique que j'ai eues, quoi. Oui, il y a un bot sur le chat, effectivement, qui nous parle en anglais de trucs chelous. Attends, faut que je regarde si je peux effacer.
Ah oui.
Mouki nous dit le Roi Lion spectaculaire, les costumes sont fous. La scène d'ouverture, j'ai fondu en larmes. Bon, ben merci.
Ah.
Volcan dit j'ai vu que Sister Act, je savais même pas que c'était Disney. Ouais, mais donc Mouki nous a dit plus haut que c'était à la base effectivement aussi une production Disney en fait le film, ce que je savais pas du tout. Donc c'est logique qu'ils utilisent leur franchise pour les adapter sur scène. Plus un pour la scène d'ouverture du Roi Lion. Bon, on est d'accord.
Bon bah voilà. Et il y a Pief qui nous dit il faudrait qu'il fasse High School Musical, The Series, The Musical pour continuer sur la lancée. J'aime beaucoup cette idée.
Idée de génie. Faut qu'on leur écrive. Toujours sur Le Roi Lion, tellement de trouvailles visuelles géniales comme la course des gnous en point de vue face au spectateur. Oui. Ouais. Du coup, on voit les Simba qui, oui, c'est derrière lui en fait sur la fin. Oui. Très impressionnant aussi. Je suis d'accord. Ouais. L'apparition aussi. Je dis pas de bêtises. L'apparition de Mufasa dans le ciel dans le deuxième acte aussi. Dans mon souvenir, était très 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 belle. Et là, ça se joue encore au Mogador. Hein, les gens qui l'ont pas encore vu, franchement, profitez-en avant que ça s'arrête. Hein. Je crois qu'ils veulent. Si j'ai bien compris, ils veulent prolonger encore. Ils veulent le jouer pendant les JO parce que bah il y aura des touristes. Donc ça va se prolonger encore un petit peu, mais bon, ça va pas rester éternellement au Mogador, donc vraiment, n'hésitez pas à prendre une place.
Moi j'hésite vraiment à aller le revoir du coup, comme en 2008, ça fait longtemps, je m'en souviens pas bien. Mais si on se fait plus inviter, maintenant on est devenu snob, donc moi je peux plus payer, c'est trop dur pour moi, psychologiquement.
Ça fait vraiment les meufs. Ils nous ont pas invités, ben tant pis pour eux, on parlera pas de leur comédie musicale dans le Zad Jazz.
Ah bah voilà, Cyril est d'accord avec moi. La Belle et la Bête, enfin avec toi aussi, je pense, Anna. La Belle et la Bête du Mugador, c'était bien, mais un peu pauvre pour les décors. C'est pour ça, je pense que c'était vraiment la version minimale, quoi.
Ouais, bah c'est le souvenir que j'en ai, donc comme quoi on était dans le
Bah
vrai.
surtout que dans le dessin animé, il y a tellement des scènes époustouflantes, notamment Be Our Guest, que là, j'ai vraiment le souvenir de trois, quatre assiettes qui se baladaient en duel, voilà, avec les gars qui faisaient les fourchettes. Bon.
Ouais, c'est à peu près ça. Ouais.
Oui, Sister Act à Mogador, c'était vraiment une bonne surprise. Hein. Moi, je connaissais pas du tout la comédie musicale. Et j'ai absolument adoré, les chansons sont superbes, elles étaient très bien traduites, enfin je
Ouais.
connaissais pas les versions originales, mais après je me suis intéressée à l'original, et j'ai vraiment adoré. J'y allais un peu en mode quoi, Sister Act, bon, mon snobisme habituel, mais j'ai trop kiffé. Et donc, la prochaine question est tout un programme. Soyez prêts pour de longs développements. Il s'agit de notre rapport au parc Disney, aux produits dérivés, etc.
Alors, je vais commencer parce que moi, c'est beaucoup moins long que Fanny. Mon rapport au parc Disneyland Paris et à tous les autres parcs est assez lointain. Du coup, j'ai, comme je suis chez mes parents, je leur ai redemandé. Ils avaient plus de souvenirs que moi, bien sûr, de quand j'y suis allée, parce que j'y suis allée quand j'avais 6 ans.
Ah oui.
Donc, une fois, une seule fois, avec mon petit frère, qui en avait 4. Ma cousine, ma tante et mes grands-parents. Voilà, voyage familial. J'ai évidemment aucun souvenir des attractions. À part, quand même un peu de souvenir de l'atmosphère du parc, les gens qui circulent, etc. Et il existe une photo, mais bon, je l'ai pas retrouvée, de moi, petite, avec un comédien déguisé en tic ou en tac, je ne sais pas. L'un des deux. Donc voilà, assez lointain le parc. Vous allez voir que pour Fanny, la réponse est très très différente. Et pour les produits dérivés, pareil. Je me suis souvenu quand même que j'avais Aladdin et Jasmine, et aussi je crois Belle en mode Ken et Barbie, enfin vraiment en poupée. Donc ça devait être un partenariat entre Disney et Mattel pour vraiment des poupées style Barbie, et que pour le coup avec lesquelles j'ai beaucoup joué. Mais voilà, à part ça et donc cette peluche Fifi que mes parents ont retrouvée, mais que t'es pas non plus la peluche de mon enfance, mais voilà, je vous la montre. À part ça, et aussi quelques livres. Je pense que beaucoup de gens aussi ont eu les livres qui racontaient l'histoire des films, en fait. Donc là, par exemple, j'ai sous la main La Belle au bois dormant, que j'avais quand j'étais petite, et j'en avais aussi pas mal d'autres. Mais voilà, c'est un peu les seuls souvenirs de choses liées à Disney autres que les films, ce qui n'est pas du tout le cas de Fanny.
Alors moi, donc tout a commencé par un Polechon. Mais c'est vrai, à vrai dire, de fait que j'ai eu beaucoup de jouets Disney dans mon enfance, je m'en souvenais pas tellement, mais c'est vrai qu'en retrouvant pas mal de trucs chez mes parents, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses. Bon, il y avait des trucs avec lesquels je pense que j'ai jamais joué. Hein. Par exemple, ce Disney Memory qui était chez ma grand-mère. Je pense que enfin, j'en ai pas de souvenir, mais voilà, j'aime beaucoup aujourd'hui les objets vintage Disney. Qu'est-ce que... Ah si, je me souviens bien de mon set de tours de magie Disney, là, que j'avais... Ça, j'ai beaucoup joué avec. Comme Anna, j'ai aussi beaucoup connu Disney à travers les histoires, notamment ce Disney Parade, ici présent, qui donc raconte les histoires Disney de façon absolument hyper mal écrite. Et c'est illisible. Je le lis à mon fils en ce moment. Et je dois reformuler tellement c'est mal écrit. Et c'est vraiment le truc où si t'as pas vu le film, tu comprends absolument rien à ce qui se passe. Donc, il est livre assez mauvais. Mais qui a la particularité, et là, je vous allez voir la transition de dingo, de m'avoir été offerte, comme l'indique cette dédicace, par mon amie Charlène, le 12 avril 1992. 12 avril 1992, qui se trouve donc être le jour de mes 8 ans, mais aussi le jour de l'ouverture de Disneyland Paris, à l'époque évidemment Euro Disneyland. Et donc, on comprend que je partage une date d'anniversaire avec Disneyland Paris, qui est située à peu près une 20 minutes de chez mes parents, hein, qui donc habitent en Seine-et-Marne, où je suis actuellement. Et moi, c'est vraiment le parc, en fait, l'ouverture du parc qui m'a beaucoup marquée étant petite, aussi parce que ça touchait directement finalement à notre, pas notre quotidien, mais voilà, c'était tout un truc que Disney vienne s'implanter dans la région. C'était tout un truc pour la France en général, hein, mais je pense pour ce coin de la Seine-et-Marne en particulier. Et j'ai même du coup travaillé à Disney. Ah, j'ai ressorti mon petit name tag de cast member de l'époque. J'ai travaillé à Disney en fait en job d'été pendant 2 étés. J'étais au merchandising, enfin au magasin. Donc voilà, j'ai beaucoup baigné dans l'univers du parc depuis toute petite parce que bon, j'ai dû y aller, j'ai été un certain nombre de fois. J'ai jamais eu le pass annuel, mais j'y suis allée beaucoup de fois en tant que visiteuse, donc quand j'étais enfant, en tant que cast member quand j'y ai bossé. Et aujourd'hui, j'y retourne avec plaisir avec mon fils, puisqu'on a la chance d'avoir des amis d'amis qui sont cast members et qui peuvent nous faire rentrer gratuitement. Donc ça fait cet enfant a 3 ans et demi, il a été 2 fois à Disneyland pour le plus grand plaisir de ses parents. Donc voilà, et là je caresse peut-être le projet d'aller découvrir Disneyland en Californie. Donc ouais, moi j'adore cet univers, mais même presque plus le parc que les films, hein, c'est tout un truc. Je me rappelle aussi, tu en parlais tout à l'heure, combien il y avait de la pub pour le parc dans les émissions Disney, mais ça j'ai jamais trop regardé, mais dans les magazines Disney. Moi j'ai beaucoup lu Picsou Magazine en étant enfant, vers 10 ans, de toute façon c'est vers même 8-9 ans, et je me rappelle de tout le matraquage publicitaire qu'il y avait lors de l'ouverture de Space Mountain, qui date je crois de 94 ou 95, et en fait je me rappelle lire des pages sur une attraction et me dire « mon Dieu, mais j'espère que je fais bien les 1m20 nécessaires pour faire cette attraction ». Ça c'est pour le coup, c'est un souvenir Disney extrêmement marquant de mon enfance. J'aimerais trop retrouver ce numéro de Picsou Magazine où il parle de Space Mountain, parce que j'ai l'impression que c'était hier, tu vois, et je me dis « mais comment ils arrivent, c'est ça qu'ils sont forts quoi, à susciter une envie, enfin un truc de ouf chez les enfants pour un manège, quoi, pour une attraction quoi ». Bref, mais ça fait partie du business model depuis le début. Hein. Mmh. Ah bah voilà, mais je vois que Mickey Parade et Picsou Magazine ont quand même été lus par nos auditeurs. Hein. Jamais eu de goodies à part quelques livres. Je me suis rattrapée adulte, nous dit Miyoki 80. Gat de Gac nous dit moi, en guise de produits dérivés, je lisais Mickey Parade et Picsou Magazine avec les gadgets et les BD de Bart et Don Rosa. Un élevage de peluches, un original de réponse par Glenn Keane. Wow. Je me rappelle seulement des Mickey Parade et Picsou Magazine, nous dit Piaf. Newig, pour moi, le parc, c'est les pubs à la télé avec des promos pendant les fêtes de fin d'année. Ouais, j'ai pas bien suivi ça parce que là, je suis un peu dans une archéologie des pubs sur le parc. Mais apparemment, à un moment donné, il y a eu... Enfin, ils ont pu faire autant de pubs qu'ils voulaient dans les émissions de télé, mais je veux pas vous dire de bêtises, mais il y a eu un truc apparemment tellement le matraquage était important. J'avais 2-3 bouquins hyper mal écrits petites, j'avais complètement oublié ces trucs. Mais oui, et ce qui est rigolo, c'est que ces fameux bouquins adaptés des dessins animés Disney, je pense qu'ils sont encore toujours édités actuellement, hein, cette fameuse collection dont vous avez peut-être des souvenirs, justement, ceux qui lisaient les bouquins avec l'espèce de petit Mickey, là. Petite collection d'albums, en fait, donc où on te re-raconte l'histoire du film. Cette fois, c'est un peu moins mal écrit et un peu moins moche que dans mon gros Mickey Parade. Et de façon rigolote, donc ça, on l'a trouvé en brocante, mais c'est des éditions récentes que mon fils lit, là, donc là, Alice au Pays des Merveilles. Et la dernière fois, alors qu'il venait de découvrir La Petite Sirène, j'ai trouvé la version Petite Sirène, mais je pense fin des années 80. Et on voit qu'en termes de vocabulaire, je pense que c'est très différent d'aujourd'hui, parce que j'aimerais bien comparer avec la version Petite Sirène, mais à un moment donné, Ursula regarde Ariel, je cite, « avec un sourire fielleux ». Et je pense que ce n'est pas... Ben, je sais pas, c'est soutenu, quoi. C'est, voilà. « Je vais te procurer des jambes », reprit la sorcière avec un sourire fielleux. « Et toi, tu vas essayer d'obtenir un baiser du prince. » Je suis sûre que c'est pas re-raconté comme ça aujourd'hui.
Probablement, ouais.
Sur ces bouquins. Mais je trouve c'est marrant comment ces bouquins, en plus, finalement, formatent nos imaginaires presque que les films, hein, parfois. Et Newig nous donne une astuce parc billet coupe-fil si vous êtes enceinte sur les attractions. Mais si vous êtes enceinte, il faut aussi peut-être pas faire certaines attractions, donc à voir. Ah ben Cyril a été passe annuel hein, pendant bien 10 ans hein, et il dit qu'il trouve le parc très très beau. Alors moi qui suis dans un vortex de podcasts Disney et de parcs d'attractions, apparemment il est de notoriété de public que notre parc, comme on dit dans la communauté des fans Disney de parc, c'est notre parc, il y a une espèce de chauvinisme. Notre parc est apparemment un des plus beaux du monde. Hein. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous visitez les autres parcs, le nôtre est le mieux. Le château, apparemment. Notre château, c'est le plus beau. Je crois que c'est même un hashtag sur Twitter ou quelque chose comme ça. Voilà, sur les produits dérivés. Et j'ai même été ce matin acheter ce t-shirt exprès pour parce que j'avais plein de t-shirts mais qui sont chez moi à Metz, que j'avais pas chez mes parents, donc j'ai même racheté un t-shirt supplémentaire pour ce soir. Et je peux vous assurer que le merchandising de Disney à Primark se porte très très bien. Bon, en même temps, c'est le Primark de Val d'Europe, donc celui qui est juste à côté du parc.
Ah.
Mais il y a matière, pléthore de produits dérivés, toujours aujourd'hui, évidemment.
Oui, Cyril Lydie, ça rejoint la politique de retraduction post-2000. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, en fait. Effectivement, les livres pour enfants, notamment par exemple le Club des 5 ou des trucs comme ça, toutes les nouvelles traductions ont un vocabulaire beaucoup plus, beaucoup moins soutenu que ça se faisait même quand nous on était enfants. Donc ça suit la même logique,
Ouais,
ouais.
c'est fou, hein. Je trouve ça merveilleux, le sourire fielleux. Je suis trop contente de mon acquisition. 50 centimes en brocante.
Ah oui, parce que vous le savez pas, je crois qu'on l'a jamais mentionné, mais Fanny adore faire les
C'est vrai.
brocantes et est fan de trouver des objets improbables en brocante, ou parfois moins improbables, des trucs utiles, mais souvent quand même improbables.
D'ailleurs, ce jouet de tampon Donald, enfin Picsou, Riri Fifi Loulou, est aussi une acquisition en brocante. Négocié sec. Elle en voulait 4 euros, 3 euros.
Je vois très très bien négocier. Très bonne acquisition, voilà, tu es soutenu dans le chat. Voilà, donc on développera évidemment dans notre projet pharaonique de série sur Disney. Je pense que Fanny sera amenée à dire plein de choses sur les parcs Disney, leur création, leur développement, leur but, leur finalité, enfin tout ça. Oh, trop mignon, c'est Sébastien. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, Fanny a une petite peluche Sébastien de la petite sirène sur l'épaule. Trop mignon.
La dernière merch en vogue au parc, c'est des petites peluches qui tiennent sur votre épaule grâce à un système d'aimant. Voilà.
Excellent. Ils savent plus quoi inventer. Alors, on s'approche doucement de la fin. On s'était noté quelque chose sur des conseils qu'on voudrait donner aux auditeurs et auditrices sur des choses à lire et à voir autour de Disney. Je sais pas si t'avais noté quelque chose, Fanny.
Ouais, j'avais noté pas mal de trucs. Alors, bon, j'ai commencé à faire une biblio, mais je pense que c'est pas forcément la peine, mais on pourra quand même vous la mettre, peut-être en fonction des
Ouais.
épisodes, on pourra mettre des biblios plus détaillés. Mais il y a quand même plusieurs bouquins qui sont vraiment très très bien, enfin, tout ce que je trouve vraiment bien, que je suis en train de lire en ce moment. Alors, pour continuer sur le parc, il y a le livre de Sébastien Roffat, qui retrace l'histoire de Disneyland Paris, donc intitulé « Faire du rêve une réalité, l'histoire de Disneyland Paris » aux éditions L'Harmattan, actualisé en 2022, hein, parce que c'était un ouvrage qu'il avait écrit il y a un peu plus longtemps et il l'a actualisé pour les 30 ans du parc. Et ça montre un peu tout ça, hein, commence à bouleverser l'économie, aussi un peu la politique française, hein, de cette implantation de Disney en France. Un ouvrage qui repose sur pas mal d'archives qu'il a consultées, donc un bouquin assez chouette. Dans les autres publications très récentes, il y a le livre de Célia Sauvage qu'on avait peut-être déjà mentionné, ou en tout cas on aura l'occasion de reparler. Donc Décoder Disney Pixar aux éditions Daronne, une publication de 2023. Là encore, je suis en train de le lire et je me régale. Hein. C'est vraiment très très chouette, hyper agréable à lire et donc. Comme son nom l'indique, elle propose une analyse à la fois, on va dire en termes de genre, en termes de race, en termes de simplement représentation, hein, qui sont véhiculées par les films Disney Pixar. Et le troisième bouquin que j'aurais voulu vous conseiller, c'est un livre en anglais de Janet Wasko. Et le bouquin s'appelle Understanding Disney, The Manufacture of Fantasy. Ça aussi, c'est un peu une somme en fait sur l'univers Disney. C'est une publication de 2020, de toute façon, on vous remettra les références. Mais c'est un bouquin qui est intéressant parce qu'il propose de saisir vraiment Disney dans l'ensemble de ses composantes. Donc, à la fois, typiquement, hein, les parcs, les films, les produits dérivés, comment tout ça, on va dire, se pense ensemble. Et bon, là, pareil, hein, c'est un bouquin quand même qui est très analyse et économique, mais c'est vraiment chouette. Enfin, voilà, c'est un peu les trois bouquins que je suis en train de lire en même temps en ce moment et que je voulais vous conseiller. Et au-delà des bouquins, il y a énormément de contenu, comme on dit, à regarder sur Disney+, et notamment de documentaires, puisque Disney est une des entreprises qui aime le mieux se raconter, évidemment, aussi pour écrire sa propre légende. Et j'ai vu ce que tu avais suggéré, Anna, donc ça, je ne vais pas le dire, je l'avais aussi en tête. Mais si, encore une fois, je me charge de la partie parcs, Je vous conseille la série Il était une fois les Imagineers, qui revient en fait sur la création des différents parcs, enfin depuis l'idée originelle de Walt Disney jusqu'aux différentes déclinaisons de par le monde. Bon, après, il y a d'autres séries qui ont été produites sur les attractions, mais vraiment la série la plus fouillée, c'est les Imagineers, et c'est donc disponible sur Disney+.
Alors moi, donc, j'avais noté le documentaire, qui est un documentaire assez connu, hein. Moi, j'en ai entendu parler pendant mes études de cinéma, je me souviens très bien, c'était noté comme une référence. Un documentaire de 2009 qui s'appelle Waking Sleeping Beauty. Donc littéralement, ça veut dire réveiller la Belle au bois dormant. Et ça raconte justement comment on en est arrivé à la fameuse Disney Renaissance, donc cette fameuse période, grande période de renouveau de la firme Disney et de ses créations cinématographiques. Quels sont les acteurs de ce renouveau? Comment ils ont réfléchi pour redynamiser le studio Disney qui était dans ce qu'on appelle sûrement, j'imagine, a posteriori, le Dark Age, donc l'âge sombre de Disney, où Disney s'était un peu perdu, tenté plein de trucs, foiré beaucoup de choses, etc. Et comment ils sont allés, et comment ils ont réfléchi à relancer la firme sur les bases qu'on disait tout à l'heure, les contes de fées, Broadway, etc. Et donc on a, voilà, c'est un film produit par Disney, hein, donc évidemment c'est très élogieux, etc. Mais c'est factuellement hyper intéressant, et on a vraiment des témoignages des créateurs de l'époque, à la fois les chefs des studios, les animateurs, les gens qui écrivaient les films, les compositeurs, Alan Menken bien sûr notamment. Donc voilà, un documentaire très intéressant qu'on trouve évidemment sur Disney+. Et j'ai retrouvé ici aussi chez mes parents ce gros livre qui est assez chouette, qui s'appelle Il était une fois Walt Disney aux sources de l'art des studios Disney. C'est un livre collectif qui revient sur, vous voyez là, on voit des, je sais pas si on voit grand-chose, mais des œuvres d'art, etc. Et qui explique un peu comment travaillaient les animateurs Disney et quelles étaient leurs influences. Donc il y a beaucoup de choses sur les influences dans l'histoire de l'art, sur la création des personnages, des décors, de tout ce qui est animation dans les films Disney. Et pour le coup, ça se concentre sur la période pendant laquelle Walt Disney était vivant, parce que c'est beaucoup sur Walt Disney, lui, quel était son rôle à l'intérieur de ça, etc. Et donc ça s'arrête après Le Livre de la Jungle, puisque c'est le dernier film dont Walt Disney a supervisé la production, donc en 66-67.
C'était pas un livre fait à l'occasion d'une expo?
Si, je crois. Musée des Beaux-Arts de Montréal. J'ai évidemment pas vu à Montréal, donc ça a dû être une expo
Ça a dû tourner.
qui a circulé et qui est venue quelque part en France, parce que oui. Grand Palais 2006-2007, c'est
Ouais,
ça. Ouais, tout à fait.
je l'ai vu, ouais.
Donc j'avais sûrement vu cette expo, ou peut-être mes parents. Mais je me souviens d'avoir parcouru ce bouquin, donc voilà, je le conseille.
Miyuki80 nous signale The Sweatbox, super documentaire sur le naufrage de la création de Kingdom of the Sun, qui devient ensuite Cusco. Ah ben je connaissais pas du tout pour le
Ah
coup.
oui.
Merci pour cette recommandation. Et j'avais pensé aussi, vous signaler, mais on en avait parlé, je pense, dans nos épisodes, le documentaire Howard sur Howard
Oui.
Ashman, là aussi documentaire disponible sur Disney+. Qui revient sur l'ensemble hein, de la carrière d'Ashman, mais plus spécifiquement, évidemment, aussi sur toute cette période voilà, où il contribue au tout début de la Disney Renaissance. Et Cyril nous dit également, c'est l'expo à l'occasion de laquelle ils ont achevé Destino, le volet de Fantasia d'Ali Disney. Alors là, j'avoue que ça, je ne connais pas non plus.
Moi non plus. Alors j'ai dans le bouquin, il y a un truc effectivement sur Dali. Je me souviens pas assez bien, tu vois. Il faut que je relise le bouquin, Cyril. Merci. Tu as l'air très très calé. On t'écrira si on a des questions.
Ah oui, je vois le court métrage. Il était effectivement, je pense, projeté dans l'expo. Oui, je vois ce que c'est. Alors, on vous l'a dit, hein, cet épisode événementiel était aussi l'occasion d'annoncer, ou en tout cas de commencer à préparer, une mini-série d'épisodes consacrés à Disney. Et bah, justement, se demander un petit peu ce dont vous aimeriez entendre parler si on se proposait de vous parler pendant plusieurs épisodes de All That Jazz de Disney. Est-ce que, bon, on a déjà quelques idées, bien évidemment. Anna, est-ce que tu peux récapituler les pistes qu'on avait pour l'instant?
En gros, on aimerait faire un parcours chronologique de l'histoire de Disney, donc de sa création par Walt Disney et ses compères, son développement, comment se sont lancées les différentes branches, on va dire, la création de longs métrages, puis ensuite la diversification avec les parcs et autres choses dérivées des films. Voilà, quelle influence ça a eu sur le cinéma et en quoi ça a été influencé aussi par le reste des créations cinématographiques et aussi musicales des différentes périodes. Et voilà, et on souhaite, donc en gros l'idée c'est évidemment d'évoquer les films, et notamment en laissant une grande part aux films musicaux, parce que c'est notre spécialité. Donc on parlera peut-être un petit peu moins des films non musicaux des différentes périodes, mais aussi de se concentrer sur le reste, c'est-à-dire l'aspect économique. Qu'est-ce que ça représente Disney à l'époque? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est quoi la manne d'argent que ça représente? Quelles sont leurs stratégies commerciales? Quelles sont aussi les idéologies que véhicule Disney au fil des années? Est-ce que c'est si conservateur qu'on le dit? Est-ce que c'est si woke que certains le disent? Voilà, il y aura toute une réflexion à mener autour de ça, et voilà, pour l'instant, c'est pas du tout figé, donc évidemment, si vous avez des envies particulières à nous livrer, n'hésitez pas à le faire.
Alors, dans le chat, alors déjà, Cyril explique à vous pourquoi est-ce qu'il est aussi calé sur la question. C'est qu'il a été guide pour l'exposition en question, donc vraiment, on va le solliciter si on a le moindre doute sur cette expo. Et on a une question de Selucci qui nous dit « Vous avez parlé de vos Disney préférés quand vous étiez enfant, mais maintenant, quels sont vos Disney préférés aujourd'hui, peut-être en limitant seulement aux films d'animation ?» Moi, je pense d'être d'une très grande consistance et je pense qu'aujourd'hui, mon Disney d'animation préféré, ça reste Aladdin. Et on aimerait bien pouvoir vous le projeter un jour au Cinéma Club. Mais bon, on va pas spoiler, on sait même pas si c'est possible.
Ah, ça serait génial, ouais. Ouais, faut absolument, on va faire une projection Disney au Cinéma Club, faudra voir.
Gat de Gac nous dit, ça peut valoir le coup de s'intéresser aux suites.
Direct ou vidéo, pardon.
Oui, elles étaient musicales aussi, bien sûr. J'avoue que moi, c'est des œuvres que je connais pas du tout, mais on va s'y intéresser. De toute façon, je pense que sur Disney+, tout est facilement dispo, donc là, on n'aura pas de problème d'accès aux sources, comme on dit. On va pouvoir tout regarder,
vrai, ouais.
Même les Disney les plus nuls.
Quoi qu'ils ont sûrement pas mis sur Disney+, des trucs très embarrassants, racistes et compagnie des années 40, non ? J'en sais rien, en fait, ils les ont mis. Peut-être avec un avertissement.
Ouais, je pense qu'il y a forcément un avertissement, mais peut-être qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas du tout mis, quand même.
Il faudra faire des recherches sur ça, je pense.
Et les remakes actuels, dans lesquels il y a une mise à jour des chansons, voire au moins une nouvelle chanson pour viser l'Oscar de la meilleure chanson originale, je suppose, vu qu'il faut une chanson originale. Bien sûr, il faudra qu'on reparle des live action, même si on avait, à un moment donné, consacré un épisode au live action. Mais comme ces live action ne s'arrêtent pas, on pourra faire un récap
de
live action. Hercule, la série d'animation hideuse, mais plein de chansons et étonnamment très bien documentée sur la mythologie grecque. Ah oui, là, j'avoue, c'est pareil. Agathe Gak nous dit, il n'y aura pas Song of the South. Non, il ne sera pas.
Donc la mélodie du Sud, c'est surtout à ça que je faisais référence, même s'il y a sûrement d'autres pour le côté vieux film raciste de Disney. Mais on pourra en parler. Alors pour le coup, je me souviens, je sais plus sur quelle cassette vidéo, qu'il y avait à la fin de cette cassette une pub pour la Mélodie du Sud avec des extraits, que ça me paraissait très étrange ce film, et que j'ai jamais vu, mais quand même c'est associé pour moi, enfin il y avait quand même une pub dans une cassette vidéo dans les années 90, donc ils n'avaient pas encore honte de ce film.
Oh oui, pas dans les années 90, oh loulo.
On était loin, on n'était pas encore woke.
Voilà. Faudrait aussi se demander ce qu'il en est de ces mises à jour dans les attractions. Parce que pareil, il me semble qu'il y a certaines attractions, pas chez nous, mais dans les parcs américains, où il y a des petits trucs un peu embarrassants. Genre des petits enfants noirs qui grimpent à un mât dans Jungle Cruise. Quand ils en parlent dans les reportages sur les attractions, ils disent « Oui, bon, ça peut sembler un peu machin. » Donc je crois qu'ils vont aussi apporter des correctifs à ce niveau-là quand ils refont les attractions. Et c'est aussi évidemment une question qui se pose dans les parcs. Alors on nous confirme que l'axe chronologique est le plus logique pour traiter toutes ces questions. Et Cyril nous dit qu'il y a un disclaimer pour les Aristochats aussi. Oui, il y a une scène un peu chelou comme dans les Aristochats. Hein. Quand on la voit, oui, ça vaut quand même son petit disclaimer.
Le châssis à moi. Mais on pourra parler de tout ça aussi, du côté comment Disney revient sur sa propre histoire, à quel point ils essaient de la réécrire, à quel point ils essaient de l'assumer. Est-ce que c'est bien, tout simplement, de réécrire ça? Enfin voilà, on pourra se poser des questions presque philosophiques sur l'héritage, en fait, des œuvres anciennes, tout simplement.
Et oui, et Coxie Grue nous parle aussi des films en partenariat avec certains États d'Amérique du Sud, Saludos Amigos et Los Tres Caballeros, effectivement des films produits dans les années 40, à l'occasion de ce qu'on appelle la politique de bon voisinage des États-Unis avec l'Amérique du Sud, où voilà, les studios hollywoodiens, et notamment Disney, étaient responsables de donner une bonne image, entre guillemets, de l'Amérique latine, et donc faisaient des films d'animation promouvant tout simplement l'Amérique latine dans sa globalité telle que vue par Hollywood. Et c'est dans un des deux, je ne me souviens plus lequel, qu'on a la sœur de Carmen Miranda qui converse avec des personnages d'animation.
Classique Disney.
Un autre sujet qu'on pourra aussi aborder, c'est un peu en note to self, parce que ça a été beaucoup, ça a été pas mal documenté, mais aussi un peu instrumentalisé par Disney, je pense, c'est la place des femmes dans la société, dans l'entreprise Disney, hein, notamment la place des animatrices, parce qu'il y a tout un truc sur à quel point les animatrices n'ont pas été un peu à l'avant-garde de tout ce qui a été fait par Disney, même si on a cette figure évidemment de Walt qui cache un peu tous ceux qui ont collaboré avec lui. Il y a quelque chose à faire. Il y a pas mal de bouquins en fait qui ont été écrits aussi sur la place des femmes dans l'entreprise Disney.
On nous suggère un premier épisode chronologique généraliste pour poser les différentes périodes, puis ensuite des épisodes thématiques. Peut-être, c'est peut-être une bonne idée. Ouais. En tout cas, il faudra veiller à être très clair, parce qu'on va, voilà, l'idée c'est quand même d'être précis et de développer des points spécifiques, etc. Mais voilà, c'est vrai que peut-être un épisode récap au début pour être bien au clair avant de se lancer, il y a moyen que ça soit intéressant. Ouais. On note toutes les idées, on fera ça bien. Bon, eh bien, on a déjà dit beaucoup de choses là sur Disney. Qu'en penses-tu ?
Mais ouais. Ça nous met en jambes.
Ben ouais, non, c'est motivant parce que voilà, on a plein de retours, plein de gens qui semblent intéressés par le sujet. Je pense que ça sera bien d'aborder ça sous l'angle à la fois personnel et à la fois analytique. Enfin voilà, je pense que ça va être une série intéressante. On va bien préparer ça. Je sais pas du tout quand est-ce que. on la sortira, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos retours aux uns et aux autres dans le chat. Ça va être quelque chose de très enrichissant pour nous. Alors, il y a quelqu'un qui arrive juste maintenant. Sissi 1808, je suis désolée de te dire, je crois savoir qui tu es, que on arrive au bout. Malheureusement de cet épisode, mais bon, il sera très très rapidement sur les plateformes de streaming. Il faut que je fasse un petit peu de montage, voilà. Et la version brute, je la mettrai aussi sur le YouTube, je pense. Donc voilà, ça sera évidemment encore accessible, je sais pas, jusqu'à la fin des temps. C'est vrai, des fois je me dis, ces épisodes de podcast, je sais pas si, tu vois, est-ce que à quel point c'est pérenne, est-ce que des gens écouteront ça dans 20 ans.
Bah, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais là, déjà, moi, j'écoute facilement des podcasts qui ont 3-4 ans, je pense, mais tant que c'est pas
lien
immédiat avec l'actualité. Félicitations pour le cap des 100 épisodes, nous dit Soskippy. Eh bien,
merci.
Qui aussi nous dit félicitations. Bah merci, hein, ça passe vite, hein, mine de rien, 100 épisodes.
C'est un truc de fou, hein. Et on n'a pas du tout fini, on a encore, outre Disney, on a encore tellement de sujets qu'on a envie de traiter. Là, on a pas fini du tout. Rassurez-vous. Ou rassurez-vous ou pas, je sais pas.
Vous en avez encore pour un certain temps, mes pauvres.
Merci tout le monde pour votre présence et tous vos messages et vos encouragements.
Ouais,
c'était un chouette moment.
C'était super. Ouais, carrément.
On verra si on refait ça à d'autres occasions.
Quand on aura des meilleures connexions Internet.
Mais ça se tente aussi, ouais, faudrait réfléchir sur quel type de sujet ça peut être pertinent de refaire un petit truc sympa avec vous, nos auditeurs et auditrices, parce que c'était un moment très chouette. Merci beaucoup pour tous vos messages.
A Coxie Grue nous dit qu'elle a une idée d'épisode, si on en manque, je crois savoir lequel c'est. Je pense que c'est
ouais,
une idée
moi aussi,
que
je
suggère à peu près depuis le premier épisode de All That Jazz. Coxie Grue, peut-être qu'un jour ton souhait sera exaucé et peut-être qu'un jour on fera ce fameux sujet d'épisode.
On garde un petit mystère. c'est Lou, je dis, je suis très déçue, il n'y a pas eu de point Crazy Ex-Girlfriend. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné Crazy Ex-Girlfriend.
C'est
Et
vrai.
ça, c'est une trahison.
C'est le début de la fin. C'est pour ça que ce 100e épisode sera le dernier, Anna.
On est arrivé à 100. C'est le début de la déchéance, le jour où on oublie de mentionner Crazy Ex-Girlfriend. Il y a une parodie de Disney dans Crazy Ex-Girlfriend, donc pour en parler à l'occasion. Hein. Le fameux, il y a un film d'animation perdu, là.
Comment ? Ah oui. Je dis même plusieurs dans l'absolu. Moi, j'étais plutôt des chansons à la manière d'eux, mais oui, il y a un film dans le film. Mais il y a aussi plusieurs chansons à la manière de Disney, si on peut dire.
Complètement. Donc, ça apparaîtra peut-être à un moment dans nos épisodes sur Disney. Allez, si on va s'arrêter là, parce que sinon on va trop dire de choses, on va trop révéler sur notre, notre future actualité. Encore une fois, merci à tout le monde.
Merci beaucoup.
Et comme on dit habituellement, à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.
À bientôt.